transatlantique est désormais une réalité.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, deuxième épisode consacré à l'histoire de l'OTAN. Pourquoi en 1949 a-t-on créé l'OTAN? C'est la question que l'on se pose cette semaine avec l'historienne Jenny Raflick. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment juste après la Seconde Guerre mondiale, les États européens, redoutant une invasion soviétique, recherchent une alliance militaire avec les États-Unis. Le blocus de Berlin va accélérer la création de l'OTAN.
À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Comme en un match revanche, les alliés de l'Ouest, marquant point pour point, ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne. Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les 2 minutes. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin.
Après le coup de Prague, le blocus de Berlin est l'une des premières crises majeures de la guerre froide. Le 24 juin 1948, alors que les Alliés n'arrivent pas à s'entendre sur le sort de l'Allemagne occupée, les Soviétiques décident de bloquer Berlin, située dans sa zone d'occupation. Par cette démonstration de force, Staline, qui s'oppose au plan Marshall et à la création de l'Allemagne de l'Ouest, espère faire reculer les Occidentaux. Et réussir à les chasser de Berlin serait pour lui une grande victoire symbolique. Du jour au lendemain, toute circulation par route, chemin de fer ou canal devient impossible entre la ville et le reste de l'Allemagne. Berlin-Ouest, c'est-à-dire la partie de la ville qui est occupée par les Américains, les Britanniques et les Français, est soudain coupée du monde libre. C'est le début d'un blocus qui va durer jusqu'en mai 1949, mais c'est aussi le début d'un véritable bras de fer. Pour montrer leur détermination à ne pas abandonner Berlin-Ouest aux Soviétiques, les Américains et leurs alliés mettent en place un pont aérien qui, pendant près d'un an, va permettre le ravitaillement de Berlin-Ouest. Pendant 11 mois, le pont aérien livre aux Berlinois 2,5 millions de tonnes de marchandises au cours de quelque 275 000 vols. Cette opération spectaculaire, mais aussi extrêmement dangereuse, causera la mort de 70 aviateurs britanniques et américains. Enfin, en mai 1949, les Soviétiques, prenant conscience de leur échec, annoncent la levée du blocus. Mais avec les images de Berlinois affamés, d'enfants guettant l'arrivée des avions, cette crise diminue le prestige de l'URSS dans le monde, tandis que Berlin devient le symbole du combat pour la liberté.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
C'est dans ce climat tendu de blocus de Berlin, alors que les Occidentaux hésitent entre la fermeté et la crainte d'une escalade pouvant mener à la guerre, qu'en même temps se déroulent les négociations qui, le 4 avril 1949, à Washington, aboutissent à la conclusion du traité de l'Atlantique Nord. Le 4 avril, donc, à l'auditorium du département d'État à Washington, l'heure est solennelle. Les représentants de 12 États sont réunis pour ratifier le texte fondateur du traité de l'Atlantique Nord.
Le pacte atlantique est désormais une réalité. Et M. Schuman expose à l'auditorium de Washington les raisons de l'adhésion française.
Les nations ont de plus en plus la conviction que leurs destinées sont étroitement liées, que leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif, mais sur la mise en œuvre progressive de la solidarité humaine.
Parmi eux, il y a bien sûr les États-Unis, le Canada et ceux qui, un an auparavant, ont signé le traité de Bruxelles, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Mais entre-temps, s'y sont rajoutés l'Italie, la Norvège, le Danemark, l'Islande et le Portugal. Sans l'Espagne et la Suisse, tous les pays d'Europe de l'Ouest, redoutant une confrontation imminente avec l'URSS, ont répondu présents pour se placer sous l'aile protectrice des États-Unis. L'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est née. Jenny Raflick, est-ce que c'est la peur de l'Union soviétique qui amène tous ces pays comme ça à s'unir et à créer l'OTAN en 1949?
Il y a la peur de l'Union soviétique, il y a peur d'une troisième guerre mondiale qui est dans tous les esprits. On observe à plusieurs reprises, dès que les tensions sont importantes à la fois sur Berlin et on l'observera encore au moment du déclenchement de la guerre de Corée, des mouvements de population, les gens se ruent sur les magasins, font des stocks. On ne se demande pas s'il va y avoir une troisième guerre mondiale, mais quand il va y avoir une troisième guerre mondiale. Et effectivement, la peur accélère le processus de décision, mais rend aussi les populations, les met en attente de décision et de protection.
On a entendu les mots de Robert Schuman, on sent une grande émotion dans sa voix, et il ne parle pas que d'un aspect défensif, il parle de solidarité humaine. C'est très politique aussi cette alliance.
Pour Robert Schuman, il y a clairement deux choses qui se mettent en place, et on l'a souvent oublié, mais dans le traité de Washington, il n'y a pas que des dimensions militaires. Il y a aussi des dimensions politiques, des dimensions économiques, qui se trouvent qu'elles n'ont pas été vraiment développées par la suite. Puis en fait, on a une faille immédiate qui traduit des rapports de force internes aussi. Robert Schuman nous parle de bien-être, il parle à un autre moment de son discours de communauté de destin, on parle beaucoup de valeurs communes, de démocratie, de liberté, mais dans les pays fondateurs, il y a quand même le Portugal de Salazar,
oui,
qui montre qu'il y a aussi une forme de pragmatisme.
Bientôt, il y aura la Grèce des colonels.
La Grèce, hélas, ce sont des questions d'intérêt militaire. Hein. Le Portugal, c'est ses bases, notamment les bases des Açores qui comptent, et la maîtrise de son espace maritime. Il est question d'ailleurs au départ de faire entrer l'Espagne de Franco. Et puis finalement, les fondateurs vont renoncer en se disant que ça serait quand même trop compliqué à faire accepter par l'opinion publique, trop en contradiction avec les valeurs affichées. Et Robert Schuman est un homme de principe. Hein. Robert Schuman, père de l'Europe par la suite, veut créer une vraie communauté, il y croit, une communauté de destin, voilà, autour des valeurs, de la démocratie. Et à côté de ça, eh bien, il y a d'autres négociateurs du traité qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui veulent une alliance militaire efficace.
À quoi s'engagent les États membres donc en signant ce traité en 1949 ?
À pas grand-chose en fait. Ce traité est beaucoup moins contraignant que ne l'était le traité de Bruxelles de mars 48 qui n'engageait que les Européens. Et en réalité, c'est pas encore l'OTAN qui est créée en 1949. En avril 1949, on crée le Pacte Atlantique ou l'Alliance Atlantique. L'OTAN, c'est-à-dire vraiment l'organisation, l'institutionnalisation avec la mise en place du commandement intégré, n'arrive que dans un second temps après la guerre de Corée. C'est-à-dire quand la menace est encore plus présente.
Au départ, la guerre de Corée qui commence en juin 1950.
Voilà. Au départ, l'Alliance est quand même plutôt basé sur une communication. Voilà, on communique beaucoup sur la solidarité, mais il y a peu de réalité hein, dans la mise en place.
Et donc, quand cette organisation sera mise en place, donc après la guerre de Corée, à quoi s'engageront les États membres ? Est-ce qu'il s'agit d'intervenir, par exemple, de manière automatique en cas d'agression d'un des membres ? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ?
Donc, il est prévu qu'en cas d'agression de l'un des pays membres, tous soient solidaires, mais ensuite, chacun choisira comment réagir. Et le texte du traité dit « y compris l'emploi de la force armée », c'est-à-dire éventuellement, oui, mais ça peut être une condamnation morale, ça peut être un blocus économique, ça peut être totalement autre chose. Il n'y a aucun engagement contractuel contraignant qui soit forcément de nature militaire.
Et les États-Unis, ils sont demandeurs eux aussi de ce traité ?
Ce sont vraiment les Européens qui sont demandeurs, parce que ce sont les Européens qui sont menacés. Les États-Unis sont dans une forme de pragmatisme après la Seconde Guerre mondiale. Alors, la thèse de l'isolationnisme, du repli qui avait prévalu au moment du rejet du traité de Versailles ne vaut plus dans les rapports de force qui sont post-Seconde Guerre mondiale.
Mais quel est leur intérêt dans cette affaire ?
Essentiellement assurer leur propre sécurité, empêcher les Européens de sombrer dans une nouvelle guerre mondiale et projeter leur propre sécurité sur le territoire européen, mais de façon préventive. En gros, préserver la paix, dissuader une agression soviétique de façon à éviter le déclenchement d'une troisième guerre mondiale.
Est-ce que les États-Unis ont une voix plus importante que les autres États membres du fait de sa puissance ?
Les Européens sont demandeurs, ils sont en quête de sécurité. Les États-Unis peuvent apporter cette sécurité, eux-mêmes n'étant pas menacés directement sur leur propre territoire. Donc forcément, il y a une dissymétrie dans l'alliance qui fait que les États-Unis vont avoir beaucoup plus souvent voix au chapitre parce qu'ils sont en situation de force dans les rapports internes au sein de l'OTAN.
Merci Jenny Raflick. Dans le prochain épisode, nous verrons comment la France va devenir en Europe la base principale de l'OTAN aux grandes dames des communistes. Et pourquoi aussi en 1966, De Gaulle va faire sortir la France de l'OTAN.